Des champions, on connaît précisément leur carrière, leurs exploits, leurs records, mais pas vraiment l'autre côté de leur médaille d'or. Et bien souvent, c'est les petites histoires derrière les athlètes qui leur permettent d'écrire leur grande histoire. Dans Rocky, Sylvester Stallone dit « Ce qui compte, c'est pas la force des coups que tu donnes, c'est le nombre de coups que tu encaisses en continuant d'avancer. » Et on a rarement vu un mec qui encaisse aussi bien que notre invité, champion épisode 3 avec le nageur handisport Théo Curin.
Comment est-il ?
Un champion du monde.
Il est champion olympique!
Champion, mon frère!
Question pour un...
Champion du monde!
We are the champions!
Ce qui m'intéresse, ce sont les super champions.
Salut Théo, ça va?
Salut, ça va très bien et toi?
Ouais, on peut se tutoyer du coup.
Oui, ah bon, ouais, bah, ouais, ça va être plus simple.
Bah alors, tu as seulement 20 ans, mais déjà un palmarès impressionnant. Double vice-champion du monde de natation handisport. Vice-champion d'Europe de natation handisport, quatrième au JO de Rio en 2016, à peine 20 ans, et tu penses déjà à l'avenir? J'ai lu que tu voulais être journaliste, et que en fait, la natation, ça te passerait au bout d'un moment.
Ouais, franchement, il faut se dire que le sport en niveau, c'est beaucoup de sacrifices, c'est contraignant, c'est fatigant. On commence très très jeune et comme j'ai dit, on fait beaucoup de sacrifices. Moi, pour ma part, je suis parti de chez mes parents à l'âge de 13 ans, m'entraîner à Vichy, alors que de base, moi, je suis de Nancy en Lorraine, donc il y avait à 500 km de la maison. Donc du coup, voilà, on fait des sacrifices et à un moment donné, c'est vrai qu'on en a marre en fait de faire des longueurs dans un bassin. Pour le moment, ça va. Au contraire, je prends encore beaucoup, beaucoup de plaisir. Mais en réfléchissant un petit peu dans mes autres passions, c'est vrai que la télé, c'est quelque chose qui me passionne. Donc, j'aimerais poursuivre là-dedans plus tard. Ouais.
Tu regardes beaucoup la télé ? Tu mates beaucoup la télé ?
Ouais, franchement, je mate pas mal la télé. Je suis aussi fan de séries, comme tout le monde, des films aussi. La comédie, ça me plaît aussi beaucoup. Donc, on verra. Mais dans ce milieu-là, ça me plairait. Ouais.
Ok. Alors on va recommencer donc par le début pour ceux qui te connaissent moins sur ton histoire, ta jeunesse. À 6 ans, on te détecte une méningite bactérienne. Alors tu me dis hein, si je me trompe, tu me corriges. Les médecins te prédisent 2-3 jours à vivre et donc la seule solution c'est l'amputation des jambes et des bras. Donc une histoire terrible, mais pour toi, pas tant que ça, puisque tu dis que sans ton handicap, ta vie n'aurait sûrement pas été aussi belle.
Exactement, il y a eu 5 mois d'hospitalisation en tout, et c'est vrai que les premières semaines, c'était les plus compliquées, parce que en 2006, c'est l'année où j'ai eu cette maladie, la méningite bactérienne, on ne savait pas trop comment la traiter. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs niveaux de méningite, plusieurs types de méningite, et moi, j'ai eu la plus grave. Et en fait, en 2006, on ne savait pas trop quoi donner comme traitement et quoi faire en fait. Ouais. Et du coup, ils étaient un peu paumés. Ils m'ont mis 2 semaines dans le coma pour un petit peu réfléchir. Et en fait, quand je suis sorti du coma, j'ai fait un début de septicémie, donc un cancer du sang. Et du coup, là, ils ont pris la décision de m'amputer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai... Je dis souvent que en fait, j'aurais pas eu cette maladie, j'aurais pas eu ce handicap, j'aurais pas fait la moitié de ce que je fais en ce moment. Donc non, franchement, je suis en phase avec ce que j'ai dit et ce que je continue à dire, parce que l'exemple tout con, c'est que avant de tomber malade, ma plus grande phobie c'était l'eau. Aujourd'hui, je suis nageur paralympique, donc ça prouve que voilà, ce handicap m'a permis de me redonner des challenges. Certes, ça m'a fait chier sur le coup, ça fait chier ma famille, ça fait chier à mes parents, mais aujourd'hui c'est même devenu ma plus grande force. Donc non, franchement, je changerais de vie pour rien au monde.
À 6 ans, qu'est-ce qu'il se dit, le gamin, quand tu comprends quelque chose ou même pas
Mais je pense que c'est l'avantage, en fait, dans mon histoire, d'avoir eu cette maladie aussi jeune, parce qu'à 6 ans, t'as rien vécu d'exceptionnel, quoi. Alors que s'il me serait arrivé la même chose, par exemple, à 20 piges ou à 30 piges, t'as déjà une amoureuse, t'as déjà... Enfin, tu finis tes études, tu commences à taffer et tout, et là, c'est bien plus compliqué, quoi. Alors que moi, à 6 ans, franchement, je me rendais pas forcément compte de ce qu'était en train de se passer. J'ai même plus du tout de souvenirs. Enfin. Ouais. Donc c'est aussi pour ça que j'ai accepté aussi facilement et rapidement cette maladie, quoi.
Et donc tu disais, donc t'étais phobique de l'eau.
Ouais.
Et alors, comment tu t'es mis à la natation même? Déjà, est-ce que tu as fait avant d'autres sports? Est-ce que finalement, quand t'es handicapé, c'est compliqué aussi peut-être de se dire que, tu vois, on peut se mettre au sport, ou comment ça se passe?
Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que j'étais absolument pas du tout sportif, même avant de tomber malade, je détestais ça. Ouais. Mes parents m'ont fait essayer tout un tas de sports, mais franchement, je n'aimais pas, quoi. J'ai essayé le foot, j'ai essayé le basket, j'ai essayé les sports de combat, la gym, bref, tout. Et il n'y a rien qui me plaisait. J'aimais pas, en fait, aller les mercredis après-midi avec d'autres jeunes et quitter mes parents, parce que mes parents étaient là le mercredi après-midi. J'étais souvent dans les jupons de ma maman. Et c'est vrai que ça me faisait flipper, et encore moins la natation, parce que quand il s'agissait d'y aller avec l'école, par exemple, je trouvais souvent une excuse, un truc pour pas y aller. Et en fait, le sport, ça a commencé le sport, ça a commencé après ma maladie, et la natation aussi après la maladie. Pourquoi? Parce que j'ai rencontré un mec qui a exactement le même handicap que moi, amputé quatre membres, mais qui a traversé la Manche à la nage, Philippe Croison.
Philippe Croison, ouais.
Et ça a commencé comme ça, et du coup, je me suis un petit peu forcé pour aller à l'entraînement, à la piscine. Et en fait, un jour, je me suis posé une simple question quand j'étais en train de nager. Je me suis dit, mais en fait, la natation, c'est le seul élément et le seul sport qui va te permettre de te déplacer comme tout le monde. C'est vrai, si je veux faire du basket aujourd'hui, c'est possible, parce que dans le handisport, il existe du basket fauteuil, mais je vais être dans un fauteuil. Je peux même faire du tir à l'arc si je veux, avec des prothèses, avec des adaptations. Mais c'est pas ça qui m'excite, en fait. Moi, ce qui m'excite, c'est d'être un peu comme tout le monde, quoi. Et la natation, quand j'arrive à la piscine, j'enlève mes prothèses ou je descends de mon fauteuil et je me déplace comme toi et n'importe qui. Ouais. C'est ça qui est fort, quoi.
Et t'as tout de suite été bon, accroché, t'as tout de suite senti que t'avais potentiel pour devenir un champion, c'était compliqué?
Assez rapidement, franchement, assez rapidement. Le staff qui était dans le club à l'époque, on dit très rapidement que j'avais certaines capacités que d'autres nageurs n'avaient pas, et c'est pour ça que j'ai continué à m'entraîner. J'ai fait une compétition, je me suis qualifié au championnat de France, et à ces premiers championnats de France, j'avais 13 ans, je fais une médaille d'or, donc là, je me dis, il y a peut-être quelque chose à jouer là.
Et c'était qui tes modèles, du coup? Est-ce que tu avais alors que ce soit des sportifs ou non d'ailleurs, il y avait qui dans ta chambre en poster, tu vois? Qu'est-ce qui te faisait rêver?
En fait, le plus grand sportif depuis tout le temps, le mec qui me passionne un peu, c'est Zidane, hein, franchement, comme beaucoup de garçons. Ouais. Mais j'ai eu la chance de le rencontrer. Quand je suis sorti de l'hôpital grâce à une association, l'association Rêve. Ouais. Et en gros, ils essayent de réaliser les rêves de certains gamins.
T'avais quel âge?
Et j'avais 7 ans à peine.
Ah ouais.
Et j'ai rencontré Zidane, j'ai fait un foot avec lui. J'ai fait un foot à Disney avec lui, c'était un truc de ouf. Donc il m'a toujours passionné par... déjà son niveau en football, mais aussi par sa prestance. C'est un mec qui, quand il parle, il a des vraies choses à dire. C'est pas un mec qui parle dans le vent. Il est timide. Il était timide de me rencontrer. Et je trouve ça incroyable. Putain, c'est Zidane, quoi. Ouais. Et franchement, lui, il m'a passionné quand j'étais jeune. Ouais. Et même encore aujourd'hui. Hein.
Ouais, normal. Ça, normal. Et alors, en grandissant, donc t'as grandi à Lunéville,
ouais,
c'est ça?
C'est ça.
Et alors, ça ressemblait à quoi ta vie d'ado quand t'as, je sais pas, 13-14 ans? Est-ce que t'es déjà beaucoup dans la piscine et ça te prend beaucoup de temps, la natation? Ou est-ce que finalement tu grandis un peu comme un ado normal?
À l'âge de 13 ans, du coup, je pars de chez mes parents, je décide de me lancer dans le haut niveau, et du coup, je pars à Vichy, au Crêpes de Vichy. Donc là, je suis dans un internat où je m'entraîne le matin, je vais à l'école la journée et je renage le soir.
Et
du coup, à partir de 13 ans, quoi. Et du coup, au début, c'était un petit peu difficile parce que c'est vrai, quand t'as 13 piges, c'est pas forcément. Ce qu'on a l'habitude de faire, et c'est vrai que ça va pas avec le schéma d'une vie d'un petit gamin de 13 ans. Mais en fait, j'avais la chance d'être pas tout seul. Il y avait d'autres sportifs avec des handicaps et aussi sans handicap qui étaient partis de chez leurs parents pour faire du haut niveau, et ça a commencé comme ça, et j'ai eu la chance de progresser rapidement, faire des résultats en compétition, et évidemment ça motive, et ça te rappelle pourquoi t'as fait tous ces sacrifices, quoi.
Et donc, justement, voilà, tu disais que justement, c'était pas la vie d'un ado classique, normal. Est-ce qu'à ce moment-là, toi, t'as l'impression de... T'as conscience de faire des sacrifices et que finalement, tu passes peut-être à côté d'une vie d'ado normale, tu vois, les premières soirées, justement, les filles, tout ça. Ouais. Est-ce que ça, t'en as conscience?
Je me suis dit plusieurs fois quand même ça. Ouais. Tu vois, par exemple, un petit peu plus tard, peut-être pas à 13 ans, mais ouais, c'est aller à 15, 16 ans.
Ouais,
c'est là quand il y a les premières petites soirées, ouais. Quoi, tu commences à boire tes premières bières et tout, tu vois. Et bah, moi, j'avais pas le droit, quoi. J'avais pas le droit, ou quand je sortais, je l'ai fait, mais je le ressentais direct à l'entraînement. Si un week-end je sortais, lundi matin, je nageais, mon coach, même lui, il savait que j'avais bu un coup ou que j'avais fait une soirée. Du coup, je me faisais défoncer. Donc, c'est vrai, tu vois, c'est un peu frustrant, mais encore une fois, l'avantage, c'est d'être pas tout seul dans cette situation-là. T'es avec d'autres sportifs et tu sais que t'es obligé de passer par ces sacrifices-là si t'as envie de faire des résultats. Certes, et bah, t'as peut-être moins but de canon que tous les autres potes de ton âge, mais aussi ces potes-là, et bah, eux, ils auraient peut-être pas la chance de monter sur un podium aux Jeux Paralympiques un jour. Donc, c'est donnant-donnant, quoi.
Ah, donc déjà hyper déterminé toi, en fait, quoi.
Franchement,
très vite, quoi.
Franchement, ouais, je me rassurais comme ça, mais c'est vrai que des fois ça m'embêtait quand on me demandait est-ce que tu viens ce week-end et tout. Bah non, j'ai compétition la semaine prochaine ou des trucs comme ça, mais voilà, c'est la vie. Et non, franchement, j'en ai pas souffert non plus, quoi.
Ouais, et puis surtout, alors j'ai lu que pareil avec les filles par exemple, ça a jamais été trop un problème, quoi. T'as toujours été à l'aise, t'as toujours eu.
C'est vrai que je me suis posé pas mal de questions quand je suis. Parce que après l'hospitalisation, j'ai fait 2 ans de rééducation. Et du coup, j'étais dans un centre où j'étais suivi médicalement, mais aussi scolairement. Du coup, pendant 2 ans, je voyais que des personnes en situation de handicap. Donc, c'est bien parce que tu réapprends à vivre avec d'autres personnes qui sont un peu dans la même situation que toi. Mais après, quand tu reviens dans un schéma de vie entre guillemets normal, c'est un peu difficile pour certaines personnes. Et là, t'as 2 solutions où tu te caches un petit peu et t'es vraiment pas fier de ce qui vient de t'arriver et c'est assez compliqué et là ça va être chaud parce que tu retournes dans une école normale et là c'est là où il peut avoir des moqueries, des trucs comme ça. Et moi au contraire, quand je suis sorti de ce centre de rééducation, j'ai utilisé mon handicap pour aller voir les autres et ça a plutôt bien marché parce que j'avais peur au départ.
Bah, j'imagine,
par exemple, en plus je marchais pas encore tout à fait bien, donc du coup j'étais en fauteuil électrique mes premières années en école primaire. Et du coup, le fauteuil électrique, c'est encombrant, c'est imposant, c'est impressionnant.
Et les gamins, c'était cool avec toi ?
Et en fait, du coup, j'utilisais ce fauteuil électrique pour aller voir, par exemple, les mecs en leur disant, vous avez vu, moi, j'ai une petite voiture, pas vous, tu sais, dans la cour de récréation, ça commençait comme ça. Et je me suis fait des potes comme ça, ils montaient sur mon fauteuil et tout, c'était la folie. Et pour les nanas, pareil, j'utilisais mon handicap. En gros, je faisais genre, est-ce que tu peux m'aider à fermer ma trousse ou mon cartable, s'il te plaît ? Ça faisait des petits rapprochements et ça a commencé comme ça. Et finalement, moi, j'ai jamais souffert, que ce soit à l'école ou entre potes et tout, parce que j'ai jamais montré un mini morceau de faiblesse, quoi. J'ai tout de suite montré que, ouais, certes, je suis peut-être différent, on s'en fiche, quoi.
Ouais.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu poses une question à mes potes en mode est-ce que mon handicap, il gêne, ou il y a déjà des journalistes qui ont demandé à mes potes est-ce que mon handicap se ressent dans nos relations. Et en fait, mes potes, ils disent, en fait, on l'a oublié.
On a oublié,
on déconne, pareil, on a fait nos premières conneries ensemble comme n'importe qui et c'est le plus important. Ouais.
Ouais. Alors bon, t'es hyper jeune, mais t'écoutais quoi ado, même si c'était il n'y a pas si longtemps que ça finalement? C'était quoi tes artistes?
Ah, j'aimais bien Section d'Assaut, justement, là, ils ont annoncé.
Ils reviennent.
Ouais, ils reviennent, donc du coup, ouais, c'est excitant. Ouais, Section d'Assaut, c'était le feu. Hein.
et en rentrant de cours, du coup, tu me dis que tu matais beaucoup de séries, j'imagine, et que tu matais beaucoup la télé. C'était quoi tes programmes d'enfance et d'ado, quoi?
D'ado, par exemple, quand je suis rentré à Vichy, quand j'avais 13-14 ans, peut-être un peu plus tard, j'avais commencé The Walking Dead, justement.
Ah, trop bien.
Et je me souviens que je pouvais regarder que à Vichy parce que mes parents ne voulaient pas que je regarde quand j'étais chez eux.
Donc,
c'était The Walking Dead, je crois, ma première série.
Et est-ce que tu faisais gaffe à ton style? Parce que pareil, tu dis, genre, en plus de ça, au lycée, c'est déjà l'apparence compte énormément.
Ouais, ouais.
Pour les gens, c'est hyper dur de s'intégrer. Est-ce que ça, tu faisais attention à ça, à ton style?
Ouais, en fait, je faisais attention à mon style comme n'importe quel gars ou n'importe quelle nana. Et c'est vrai que...
Mais tu voulais le vêtement de marque?
Comme tout le monde. Ouais. Franchement, ouais, c'est pas parce que j'étais en fauteuil que je mettais pas... Même, tu vois, sur mes prothèses, j'aurais pu mettre des chaussures toutes pourries parce que je m'en fous, je vais pas les user beaucoup. Mais non, je voulais faire comme tout le monde, avoir les petites dernières chaussures, les trucs, tu vois, et c'était être dans la mode un petit peu comme tous les autres ados, quoi.
Ah, j'avais un peu sur les jeux vidéo, apparemment aussi, t'es un gros gamer.
Ouais, j'aime bien.
Moi aussi. Tu joues à quoi?
Franchement, je joue un peu à tout. Moi, je suis sur PlayStation, par contre.
Ouais, moi aussi. Warzone,
Warzone. Et franchement, j'ai pas joué trop longtemps, par contre.
Ouais.
Mais je suis Fortnite. Je construis tout, hein, avec mes petits bras, là.
Fortnite, j'ai jamais joué.
Fortnite, je joue pas mal. Et là, je suis en train de défoncer Assassin's Creed, là, le dernier.
Chez les Vikings,
ouais. Ouais, il est pas mal. J'aime bien. Et FIFA aussi. FIFA, j'aime bien gagner contre mes potes. Et je leur dis à chaque fois, vous avez perdu contre un mec qui a 10 doigts.
Mais alors, comment tu fais concrètement pour appuyer sur les boutons et tout? Comment tu joues?
Alors, je sais pas comment t'expliquer. Bah, par exemple, sur un jeu, par exemple, FIFA, bah, avec mes deux bras, je vais contrôler les joysticks et les touches.
Mais c'est chaud parce qu'elles sont.
Franchement, non, ça va, je suis assez précis. Mais par exemple, le truc tout con, c'est pour courir sur FIFA, faut appuyer sur R2.
Ouais. Ah oui, voilà.
Et du coup, en fait, moi, je pose la manette sur mes cuisses. Ouais. Et en même temps, bah, du coup, je pose mes bras sur la manette. Et quand j'appuie sur la manette, bah, du coup, sur ma cuisse,
ça appuie sur
R2. Et franchement, ouais. Bon, après, en toute humilité, hein, je joue plutôt bien.
Ouais, tu joues bien. Non, mais
par contre, je me suis pris 3-0 par Jenny Le Summer la dernière fois. Mais elle joue très, très bien.
Tu passes aussi pas mal de temps sur Instagram, j'ai vu. Alors, bah, effectivement, comme t'es jeune, c'est plus ta génération que la mienne encore. Quel rapport t'as avec les réseaux sociaux, tu vois? Est-ce que c'est...
Moi, honnêtement, les réseaux sociaux, j'aime beaucoup ça. Après, bah, évidemment, il faut faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on met dessus et à ce qu'on lit. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est un bel outil parce que un des objectifs que j'ai aujourd'hui, c'est de casser les codes, entre guillemets, prouver que bah, il peut nous arriver n'importe quoi dans notre vie. On peut tous rebondir, quoi. Et c'est le message que j'essaye de faire passer. En plus de prouver en fait aux jeunes, parce qu'il y a quand même beaucoup de jeunes sur les réseaux sociaux, que voilà, j'ai un corps différent avec des mains et des pieds en moins, avec des cicatrices, mais pour autant voilà, je pose des fois sur des photos en maillot de bain ou au bord de la plage comme tout le monde, en disant regardez, j'ai un corps assez atypique, un petit peu, ça peut être lourd pour certaines personnes, pour autant moi je m'en fiche, quoi, je pense comme n'importe qui. Et j'utilise les réseaux sociaux pour faire passer ce message, parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui souffrent, tu sais, aujourd'hui c'est souvent comme ça, il y a des gens qui s'en prennent plein la tête parce qu'ils se sentent différents, ou des personnes qui souffrent tout simplement parce qu'elles sont trop grandes.
T'as jamais eu souffert de ça, non?
Non, franchement, moi, jamais. Franchement, jamais. Parce que, encore une fois, même sur les réseaux sociaux, je suis fier de ma différence, tu vois, je laisse rien paraître, quoi. Et j'essaye de faire passer ce message-là. Donc, non, pour moi, les réseaux sociaux, c'est assez important. Ouais.
Quand t'as gagné, est-ce que du coup, quand t'as commencé à gagner, donc du coup, bah, avec ça, t'as de l'exposition, la célébrité, est-ce que t'as senti. Un changement dans ta vie, comment t'as dealé avec ça, ou est-ce que pour toi c'était très naturel?
Pour moi, ça a été très naturel. En fait, je me rends pas forcément compte de ce que j'ai fait, de ce que je fais. Sans mauvais jeu de mots, je garde les pieds sur terre et je sais que j'ai toute une famille autour de moi qui serait là pour mettre une claque au cas où s'ils voient que je commence un petit peu à délirer. Mais en tout cas, non, pour moi, je fais rien d'exceptionnel. Pour moi, je suis un privilégié, en fait, parce que j'ai la chance de faire aujourd'hui ce que j'aime faire. C'est-à-dire que aujourd'hui, mon travail, c'est d'être un petit peu à la télé, de nager, de mettre des posts sur les réseaux sociaux, de faire des vidéos, etc. Et c'est ce que j'aime vraiment faire, et aujourd'hui c'est mon métier, et beaucoup de gens n'ont pas cette chance là donc pour moi je suis un privilégié et j'en suis très très reconnaissant. Ouais.
Du coup, pour finir, je vais te demander ton panthéon personnel. S'il y a un livre, alors culte ou je sais pas, que tu lis en ce moment.
Je suis en train de lire un livre là, parce que je suis en train de me lancer un nouveau défi là. Dans un an, je vais traverser le lac Titicaca. Ouais. Et en fait, je lis, je crois que c'est Les Aventures du Comte Tiki. Enfin, je suis plus très sûr du titre, mais c'est incroyable. C'est l'histoire de mecs qui ont décidé de traverser je sais plus quel océan avec un radeau. Et,
plus ou moins ce que vous allez
ouais,
faire,
c'est
en
un
fait.
Peu
c'est ça.
Ouais, c'est un peu ça. Enfin, j'aime bien les livres d'aventure. Par exemple, Mike Horn et tout, je les ai tous lus.
Ah ouais, trop fort. Ouais, c'est un Mike Horn trop fort. Une série culte, bon, du coup tu m'as déjà répondu, c'est Walking Dead, non, j'imagine.
Mais là en fait je viens de sécher Prison Break. J'avais jamais vu Prison Break et je les ai regardés là, mais d'une belle vitesse. Et non, franchement, il est trop trop cool.
Ouais, très très bien Prison Break. Un acteur, une actrice,
J'aime bien Bruce Willis.
Bruce Willis.
Un peu à l'ancienne, mais tu vois, pas trop.
Dans les Die Hard.
Il casse des gueules, quoi. J'aime bien.
Et une chanson que tu dois avoir, ou un album. Qu'est-ce que tu écoutes en ce moment?
J'écoute vraiment de tout, hein. Honnêtement, j'écoute vraiment de tout. Mais tu sais, en plus, là, sur Deezer, ils ont fait...
T'es sur Deezer, ce que j'allais dire, sur Spotify, ils ont fait le truc de l'année, là.
Voilà, ben c'est pareil. Et en fait...
Et t'en dis quoi? Parce que souvent moi j'ai vu les trucs, je fais... Oh, je le dirai jamais de la vie.
C'est chaud.
Ouais, j'ai des trucs chauds.
Non. Et puis des fois, ils disent, genre, tu fais partie des 1% qui écoutent tel artiste. Je sais même plus qui c'était, moi... Je sais même plus.
Tu veux que je te dise, moi?
Mais bah, c'est un truc un peu de lover, moi.
Ah ouais,
ouais, ouais, ouais.
Moi, j'ai des goûts d'une meuf de 13 ans qui mange un McDo à Châtelet-Léal. Regarde, j'ai mes artistes préférés. Jul en 1. Ah ouais. Justin Bieber. Bon, les Strokes en 3, Vald et Drake.
Tu vois ? Ah, ça va.
Ouais, ça va, mais bon. Putain.
Attends. Le son que j'ai écouté le plus, c'est de 47 Terres, Soleil Noir. Il pleut, bien, on sort, bien, on va se balader
dehors. On ira parler pendant des heures, on se verra du bifort jusqu'à l'after. Ah ouais ?
Et après, l'album que j'ai le plus séché, c'est le acoustique de L'Homme Pâle.
Je suis trop défoncé, Stéphane Hawking dans le canapé. Entouré par les plus beaux poissons, j'ai plus qu'à sortir ma canne à pêche. J'ai peur de l'échec du premier point à la balle de match. J'avais pas été aussi perdu depuis la fac de maths.
Juste quand même un mot sur le défi Titicaca, tu peux nous expliquer rapidement ce que c'est quand même ?
Et ben en fait là, je fais une petite pause au niveau du paralympisme. En fait, je vais pas faire les Jeux de Tokyo en 2021. Je me suis lancé le challenge de traverser le lac navigable le plus haut du monde. C'est le lac Titicaca qui se situe entre le Pérou et la Bolivie. Il y a 122 km à faire. Je vais partager cette aventure avec deux autres personnes. Malia Metella, qui est une ancienne nageuse olympique. Nageuse, ouais. Et Mathieu Whitwood, qui est un éco-aventurier, il a déjà fait le tour du monde à vélo et tout. Enfin, c'est un grand malade. Et du coup, on s'associe tous les trois pour traverser ce lac en totale autonomie pendant 8 jours. On pense mettre environ 8 jours. Et on va tracter un radeau en fait la journée. Et la nuit, on va dormir dans ce radeau. Et voilà, l'eau est à 10 degrés. Le lac est à 3008 d'altitude. Enfin voilà, c'est que du bonheur.
10 degrés ? Faites comment ? T'es en combi ?
Ouais, on a des combis. On a des combis. Et on pense mettre. On va faire 15 bandes par jour en 6 heures. Parce qu'il y a 300 kilos à tracter quand même. Ouais. Et voilà. 8 jours, par contre, en nageant 15 bornes pendant 8 jours, ça va piquer.
Hein. Ah ouais.
Ouais. Mais c'est incroyable.
Et là, t'es entraînement full.
Ouais, justement, là, c'est impressionnant parce qu'on ne s'entraîne pas du tout de la même manière que quand on prépare les Jeux ou les Championnats du Monde. Parce que là, on travaille sur de la longue distance. Là, à la fin, on a tracté deux kayaks où on avait mis du sable dedans pour pouvoir faire 300 kilos. On nage en l'eau à 8 degrés à Compiègne. Enfin, c'est que des trucs de fou. On va tenter la méthode Wim Hof. Donc, c'est en gros apprendre à maîtriser ses émotions quand tu es dans de l'eau froide, en fait. Et c'est que des trucs de dingue comme ça qu'on va faire.
Mais apparemment, alors moi, c'est pareil, ce que je disais, c'est que pour toi, c'est plus simple finalement de t'adapter à l'eau glacée. Encore une fois, c'est ton corps qui te permet ça.
Ouais, quoi. C'est ce qu'on dit en fait, parce que par exemple, les parties du corps où t'as froid le plus rapidement, c'est les extrémités. Ouais. Donc les doigts, des mains et les orteils. Donc moi, c'est réglé comme ça. mais du coup, ouais, les gens disent que du coup, j'aurais tendance à me réchauffer plus rapidement. Et c'est aussi pour ça, parce que moi, j'ai tout le temps chaud l'été et tout, je souffre énormément. Donc non, je pense que je pars avec un avantage là sur cette expédition.
Bon bah en tout cas on te souhaite bonne chance et on espère peut-être te revoir une fois que ce sera fait.
Et bah, tu nous racontes. Avec plaisir.
Bah merci beaucoup Théo.
C'était
un plaisir de discuter avec toi.
C'était cool.
Et à bientôt.
À bientôt.
Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute et soyez cool, hein, mettez des petites étoiles si ça vous a plu. Comme ça on sera mieux référencé et on pourra dépasser le Moscato Show au classement des podcasts. Et ça c'est quand même la classe. Merci d'avoir écouté Champion. À la prochaine. Salut.
It's Owen and Murph here, and we want to talk about the good people at Now who are sponsoring this episode and have some exciting news to tell us about the return of the Formula One season, which kicks off on March 2nd.
Oh, well, this sounds great, but where do I catch all of this high-octane action?
Murph, you can stream all the F1 Sky Sports action without a contract for just €20 a month for 12 months with a Now Sports membership. If Formula One's your game, then Now is the name.
You're really revving my engine, McDevitt.
Ah, pit stop it with all the puns, Murph.